Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Bord de Scène, l'émission où l'on vous parle de culture. Aujourd'hui, je suis avec Atelier Cento et je manque à tous mes devoirs. J'ai oublié de vous demander vos prénoms, donc je vous laisse vous présenter.
Bonjour, alors moi c'est Cécile.
Et moi c'est Olivier.
Merci de nous recevoir.
Alors Cécile et Olivier, donc vous êtes un duo, vous êtes un peu multiplateforme. Vous avez notamment écrit à deux un livre qui s'appelle une duologie qui s'appelle La Fête des Ombres. Donc je vais vous lire le résumé, enfin une partie du résumé en tout cas, on va éviter de spoiler. Chaque été, dans un village isolé du Japon, on célèbre la Fête des Ombres, un étrange festival pendant lequel les habitants accueillent les âmes errantes des morts qui ont tout perdu jusqu'au souvenir de leur vie passée. Alors moi j'ai une première question en lisant ce résumé. C'est pourquoi avoir représenté l'âme des morts de cette façon ?
Tu veux dire flou ?
Oui, d'une façon, parce qu'en fait, on voit, c'est des ombres. Et pourquoi, en fait, avoir représenté l'âme des morts sous forme d'ombre, en fait ? Parce qu'en général, entre guillemets, les fantômes, on les représente plutôt de façon transparente, translucide. Là, c'est vraiment des ombres qui ont une silhouette humaine.
Dans l'histoire, elles ont... les fantômes s'attachent... chaque esprit s'attache à une personne en particulier. Et dans le cas de l'héroïne, elle est en contact avec l'esprit d'un homme disparu un peu mystérieux. Et elle ne le voit pas sous forme d'ombre, mais d'abord sous forme un peu floue. Et l'idée, c'est que la représentation des ombres, des esprits dans la BD évolue en fonction de la manière dont les gens les perçoivent. Donc il y a plusieurs étapes. C'est l'ombre.
C'est l'ombre pour les gens qui ne les perçoivent pas, en fait.
Ça va être ensuite une sorte de silhouette un peu floue, et après, qui va se préciser au fur et à mesure qu'on en apprend plus sur le personnage.
Oui, parce que chaque habitant prend sous son aile une de ses ombres.
Et alors, c'est pas chaque habitant, c'est juste des femmes qui ont cette capacité, on va dire, qui se transmet un peu de génération en génération chez les femmes du village.
C'est quelque chose qui se perd.
Alors, ça vous a pris combien de temps de travail, à peu près, cette duologie ?
Deux ans, à peu près. Un an pour chaque tome, environ.
Alors, l'ambiance, elle est très mystérieuse. Elle est presque un peu effrayante. Il y a une espèce de brume, un petit peu, dans mes souvenirs qui s'installe. Comment est-ce que vous avez construit un peu cet univers-là ?
On est parti de souvenirs de voyage, comme pour chacun de nos projets. Et pour la Fête des Ombres, c'est deux souvenirs, en gros, qui ont servi de base à l'histoire. Il y a eu le souvenir de Osolezan. C'est une montagne au nord du Japon, une sorte de volcan, un cratère de volcan. Et c'est là où les gens vont pour parler à l'esprit de leurs enfants morts. Donc, il y a une atmosphère extrêmement sinistre. C'est un volcan, donc il y a des fumerolles de soufre. Et les gens errent dans ce paysage déchiqueté, parfois en criant le nom des disparus face au lac. Et il y a des corbeaux qui errent partout en croissant. Il y a vraiment une atmosphère très sombre. Et le deuxième souvenir, c'était on voyageait sur la côte dévastée par le tsunami en 2012, donc un an après les faits. Et on était dans un bus qui remplaçait un train qui avait été entièrement, dont la ligne avait entièrement été détruite. Et le bus traversait des paysages entièrement vides puisque toutes les maisons avaient été rasées. Et les gens qui étaient dans le bus descendaient à des arrêts au milieu de nulle part. Et il y avait de la brume ce jour-là et ils disparaissaient dans la brume dans ce paysage entièrement vide. Voilà, c'est un peu les deux souvenirs qui ont servi de base à l'histoire.
D'où l'atmosphère un petit peu désolée, qui est pourtant c'est habité, hein, il y a des gens, mais c'est vrai qu'on a un peu cette sensation d'atmosphère un petit peu désolée, un petit peu comment dire, oui. Ouais, un petit peu abandonné.
Après, c'est aussi de l'atmosphère de qu'on a ressenti nous quand on vivait dans la campagne japonaise, c'est-à-dire oui les
commerces ferment, les gens s'en vont, voilà. Les jeunes s'en vont, il reste plus que les personnes âgées, mais les villages peuvent vite se transformer en villages fantômes.
Donc c'est un petit peu un reflet. Enfin, est-ce que vous penseriez que ce serait un reflet du Japon d'aujourd'hui, enfin, de la campagne japonaise d'aujourd'hui?
Alors, nous, on ne prétend pas expliquer comment est la campagne japonaise ou comment est le Japon aujourd'hui. On transmet juste des ressentis personnels et très honnêtement, c'est des choses qui nous plaisent. Enfin, c'est des atmosphères qui sont sombres, mais qui sont qui ont un charme très particulier et qu'on essaie de retransmettre. Ces petits villages où il n'y a plus grand monde, qui sont très calmes, un peu désolés, c'est une atmosphère un peu mélancolique qu'on aime et qu'on essaie de retranscrire, en fait.
Alors justement, alors une autre question qui va faire un peu écho à vos inspirations. La Fête des Ombres, du coup, met en scène un rituel qui peut paraître très mystérieux au départ. Est-ce que c'est des inspirations réelles du folklore japonais ou est-ce qu'il y a, ou est-ce que c'est plus une inspiration personnelle ?
Oui, ça s'inspire d'une fête traditionnelle qui s'appelle Obon au Japon et qui est la fête des morts. Alors, c'est une fête qui se déroule que sur quelques jours normalement et chaque jour, on accueille les morts qui sont ensuite renvoyés dans l'au-delà voilà, en fin d'événement. Nous, on a étendu ça, on a étendu le concept sur une année, c'est-à-dire qu'il y a un jour de festival où on accueille les morts et un an plus tard, ils sont renvoyés dans l'au-delà. Et ceux qui ont été sauvés, et les autres deviennent des âmes errantes.
Alors, vous avez fait une, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais une collaboration avec Cécile Corbel, vous avez illustré un de ses morceaux. Comment ça s'est passé à peu près ?
Ce qui s'est passé, c'est que Cécile Corbel avait acheté Onibi, notre première BD, qui raconte notre vie dans la campagne japonaise. Et comme elle avait travaillé sur Arrietty avant, elle avait fait la musique du film Arrietty de Ghibli, elle est quand même très attachée au Japon et elle s'y est un peu retrouvée. Du coup, elle nous a contactés et pour un album sur lequel elle travaillait à ce moment-là, elle avait fait appel à quelques artistes, dont nous. Et nous, on la suivait depuis longtemps, on aimait beaucoup son travail. Comme on avait vécu en Bretagne et qu'elle fait de la musique celtique et tout ça, c'est vraiment quelque chose qui nous parlait. Et voilà, en fait, la musique, elle l'avait déjà composée. Et elle nous a demandé, elle avait déjà des idées en fait, des images de ce qui pourrait coller, mais le lien n'était pas encore fait avec la Fête des Ombres à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, c'est que le texte qui parle de gens disparus et de la présence des êtres qui nous sont chers et qui flottent dans l'air en quelque sorte, c'était en fait l'atmosphère du livre sur lequel on travaillait à ce moment-là, donc la Fête des Ombres. Et on a tout de suite fait le lien et on s'est dit que tout en étant une histoire un peu indépendante qui peut se regarder seule, en fait le clip vidéo peut se regarder indépendamment, c'est aussi un prolongement de notre histoire de la Fête des Ombres où on découvre un peu des souvenirs de l'héroïne, des choses sur son enfance, etc.
Oui, alors justement dans la chanson raconte une histoire que vous illustrez, comme vous l'avez expliqué. Et en fait, on vous alterne entre la couleur et le noir et blanc. Alors pourquoi, à certains moments, vous utilisez le noir et le blanc comme colorimétrie et à d'autres moments, la couleur ? Bon, on peut deviner pourquoi, mais j'aimerais bien avoir votre interprétation dessus.
C'est les souvenirs, si je me souviens bien. C'était il y a un moment. Hein.
Mais ils sont en bleu, c'est ça ?
Il y a d'un côté une scène en couleur d'une maison, l'intérieur d'une maison vide, oui. Sans personne. Et ensuite, c'est plus des clichés, des vieilles photographies un peu estompées par le temps. Et du coup, on a utilisé une sorte de lavis. Alors, ce n'est pas du noir et blanc pur, c'est une sorte de gris-bleu pour avoir un côté un peu estompé. Et qui contraste avec, avec toutes les couleurs d'un environnement présent, mais vide. Voilà.
D'accord. Je vous propose qu'on écoute La poussière de l'air de Cécile Corbel.
Toi, la couleur du vent, es-tu dans le blanc du ciel? Moi, j'y pense souvent, à l'heure où le soleil se lève.
On est de retour dans Bord de Seine et on va parler de votre jeu vidéo qui sort en 2026, qui s'appelle The Doll Shop. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Alors, The Doll Shop, en gros, c'est un jeu vidéo, c'est une sorte de bande dessinée interactive. Nous, on s'est mis au jeu vidéo il y a quelques années quand on a découvert l'univers du jeu vidéo indépendant. Et on s'est rendu compte que le jeu vidéo indépendant, ce n'est pas comme l'image du jeu vidéo commercial qu'on a, qui est des jeux en 3D, où on fait la guerre et tout ça, en gros, créé par des équipes immenses de centaines de personnes. Un jeu vidéo indépendant, ça va être créé par une toute petite équipe, une, deux personnes, parfois un peu plus. Et d'un point de vue visuel, ça va utiliser plein de styles qui sont très variés, et notamment du dessin. Et comme nous, on est dessinateurs, on s'est dit qu'on pouvait se tenter, nous aussi, de transformer nos dessins en jeux. Et on s'est lancé dans ce genre de projet. Et du coup, donc, c'est une histoire, un peu comme une bande dessinée, qu'on va suivre avec des personnages. Et on peut explorer un petit village japonais rencontrer les gens qui y habitent. Et dans les dialogues, interagir, choisir nos réponses pour ensuite influer sur l'histoire. Voilà, en gros, le principe.
Donc c'est un jeu, c'est un roman graphique interactif.
Voilà. Oui, c'est entre le dessin animé, la bande dessinée, c'est quelque chose d'accessible à tous en tout cas.
Oui, ça se joue à la souris.
Facilement. Alors la bande annonce est très très mystérieuse. Elle évoque un petit peu, mais c'est vrai qu'elle montre pas grand chose, mais elle montre quelque chose. C'est une ombre, donc on sent que c'est quand même quelque chose qui revient. Est-ce que c'est le même type d'ombre que dans La Fête des Ombres, ou est-ce que ça représente totalement autre chose ?
C'est autre chose, mais disons que c'est toujours sur la perception, la manière dont le personnage principal perçoit les autres. Et donc là encore, on s'est vraiment inspiré de notre vécu à Niigata, donc dans la campagne japonaise, où l'hiver est très très rude et où les gens sont enfermés chez eux presque parfois pendant 6 mois de l'année quand il neige. Donc ça peut être un peu froid quand même, l'atmosphère, et ça nous a inspiré cette histoire d'horreur qui est un petit peu...
Une histoire d'horreur romantique, ou une romance d'horreur, on sait pas trop.
Il y a un peu de cosy, il y a un petit peu de... Voilà, c'est un mélange
c'est
de tout ça.
Très sombre, en même temps assez rigolo. Il y a pas mal d'humour, mais un humour noir, et plus on avance dans l'histoire, plus on est...
Et donc il y a des personnages qui sont en ombre. Et il y a des personnages qui ne sont pas en ombre. Mais ça serait dommage de dévoiler... Pourquoi il les perçoit comme ça, voilà.
Et alors, on sent qu'il y a des thématiques qui sont quand même assez récurrentes, que vous aimez aborder un petit peu, notamment le Japon, qui est très présent dans vos œuvres. S'il y avait une région du Japon dans laquelle vous aimeriez vivre, ce serait laquelle ?
Moi, je dirais Tokyo, sans hésiter. Parce que dans la zone de Tokyo, on peut accéder à tout. En fait, tous les paysages variés du Japon. On peut facilement passer une journée dans la campagne, dans la montagne même, en bord de mer, dans la ville. Et la ville est constituée de petits quartiers dont certains évoquent vraiment les quartiers de petites villes de campagne, en fait. Donc, c'est une sorte de patchwork complet de ce qu'on peut avoir au Japon, même si, bien sûr, il n'y a pas... Il n'y a pas l'atmosphère peut-être justement un peu fantomatique qu'on ressent dans les campagnes.
On a eu la chance de vivre dans une campagne justement au nord-ouest du Japon. Et c'est génial et c'est d'ailleurs ce genre d'atmosphère qui nous a inspiré aussi bien nos premières BD, Onibi, La Fête des Ombres, que notre jeu vidéo The Doll Shop. Mais de là à y vivre, ce qu'on a fait pendant une année, c'est quand même assez compliqué parce qu'il fait extrêmement froid. Les maisons ne sont pas isolées, y a quand même des... La vie à la campagne au Japon, c'est rude, à moins d'être vraiment dans le sud, et même dans le sud, si on n'a pas froid, c'est qu'on a trop chaud, donc c'est assez compliqué. Mais voilà, c'est peut-être pour ça que...
C'est plus une question, pour une question de climat, confort. On a vraiment souffert.
Combien de fois vous êtes allé au Japon en tout ?
Je ne sais plus, ça fait une quinzaine d'années qu'on voyage là-bas. Et donc, on y va à peu près tous les deux ans sur des périodes de 1 à 3 mois. Et on a vécu un an en 2009-2010 là-bas.
Est-ce qu'il y a des valeurs que vous aimez faire passer dans vos œuvres ?
Qu'en penses-tu ?
Par exemple, La Fête des Ombres. Bon, je vais éviter de trop spoiler, mais c'est vrai que j'ai ressenti un peu ce truc de... Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai ressenti un peu une histoire de deuil, un petit peu. Et donc, je ne sais pas si c'est... je ne sais pas si c'est un peu le message que vous avez voulu faire passer dans La Fête des Ombres, parce qu'un deuil de... C'est dur un peu d'expliquer pourquoi, sans spoiler, mais un deuil, on va dire, d'une relation, de quelque chose qu'on aimerait construire, mais qu'on ne peut pas parce que la vie fait que... Enfin, la réalité fait que ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Le fait d'avoir vécu loin au Japon et maintenant de revenir en France et tout ça, ça fait que les gens qu'on connaît là-bas, ils sont inaccessibles. Et je pense qu'il y a de cela quand on décrit des histoires comme La Fête des Ombres, c'est-à-dire que c'est pas un deuil parce que les gens sont morts, mais ils sont quand même à l'autre bout de la planète.
Il y en a qui sont morts. Hein.
Ça arrive, mais ça arrive partout.
Oui, voilà.
Mais du coup, c'est vrai que les gens qu'on connaît, même les jeunes artistes avec qui on fait des après-midi dessins à Tokyo, ils sont inaccessibles tant qu'on est en France, donc on ne fait pas le voyage de 14 heures pour aller au Japon. Et du coup, c'est... il y a le côté absence, l'éloignement et tout ça qui, je pense, nous inspire ce genre d'histoire. Le fait que les choses sont présentes sans être présentes... et qu'on retrouve après dans nos histoires par le filtre du fantastique avec les esprits, les yokai et tout ça.
Il y a aussi l'envie de montrer que justement les instants qu'on vit quand on est là-bas sont extrêmement précieux. Et en fait, on les fait durer à travers nos histoires, c'est-à-dire qu'on les ramène avec nous comme souvenirs et on les exploite à chaque fois. On remet les gens qu'on connaît dans nos histoires. On essaie de... prolonger ce plaisir-là de la rencontre et des moments passés ensemble comme si c'était quelque chose de très précieux. Et oui, on s'est lié aussi d'amitié avec pas mal de gens, des personnes âgées et tout ça, dans les campagnes qu'on sait qu'on ne reverra jamais, quoi.
Et du coup, il y a cette thématique un peu du souvenir, effectivement, qu'on retrouve aussi dans l'illustration de La poussière de l'air de Cécile Corbel. Il y a un peu ce côté souvenir. Est-ce que c'est une thématique qu'on retrouve dans Onibi ?
C'est toujours la thématique, oui, du temps qui passe. Et c'est quelque chose qui est vraiment lié au Japon. Le Japon, c'est un pays qui est très mélancolique. Il rêve toujours d'un âge d'or passé. Les campagnes, comme on l'a dit, se dépeuplent. Le Japon change constamment et il y a une sorte de mélancolie qu'on ressent très fortement quand on y voyage, surtout quand on voyage en dehors des villes, et qu'on retrouve, oui, après, comme ça, dans nos dessins, parce que c'est ce qui nous a marqué.
Je voulais savoir aussi, est-ce que dans The Doll Shop, il y a aussi cette mélancolie ? Moi, j'ai l'impression, en regardant la bande-annonce, qu'elle y est un petit peu. Après, c'est vraiment mon impression de la bande-annonce.
Oui, c'est vraiment ça, un petit village recouvert par la neige, presque dépeuplé.
Le temps semble arrêter, le personnage il est coincé dans ce...
Dans ses souvenirs de quand il y avait plus de monde au village, quand c'était plus vivant et tout ça.
Et en l'occurrence, il y a un personnage, une amie d'enfance qui revient. Et là, ça remet en marche en quelque sorte la machine du temps. Et c'est là que le jeu commence vraiment. Mais je pense que oui, les thématiques se recroisent sur ce personnage qui reprend sa boutique de poupées de ses parents. Donc il y a toujours la question de la responsabilité de maintenir en vie le village.
Comme dans La Fête des Ombres, l'héroïne se retrouve à reprendre la tâche d'accueillir les esprits au village. Mais c'est pas du tout ce qu'elle, elle aimerait faire en tant que personne.
Et c'est quelque chose qui, a priori, n'a pas tellement d'avenir, puisqu'elle est la dernière à le faire. Là, pareil, dans The Doll Shop, le village est quasiment mort, en fait, déserté. Il n'y a pas d'avenir à ce projet-là. Et voilà, c'est des thématiques qu'on reprend. Après, c'est pas dévalorisé. C'est-à-dire que dans La Fête des Ombres, quand Naoko fait ses choix de vie et tout ça, elle... Il y a quelque chose de précieux dans ce qu'elle décide et des choses qu'elle fait au jour le jour et tout ça. On cherche pas non plus à. Je pense pas que. Enfin, je sais pas quel est ton ressenti à la lecture, mais on se dit pas qu'elle a raté quelque chose ou quoi. Et les choses qu'elle vit ont leur valeur au présent.
Il y a un peu aussi. Est-ce qu'il y a un peu aussi cette thématique du poids de l'héritage ?
Oui, mais je pense que. Alors, c'est très fort au Japon parce que. Ils sont très sur la transmission des techniques traditionnelles, de l'artisanat et tout ça, quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Mais je pense que c'est quelque chose un sujet sur lequel on réfléchit tous au jour le jour, en fait, c'est-à-dire les valeurs qu'on souhaite transmettre, la manière dont on vit, les choses qu'on consomme, etc. Donc,
D'accord. Alors, si vous deviez vous incarner dans une de vos histoires, laquelle est-ce que ce serait ?
On est déjà incarné dans Onibi.
Onibi,
nous les personnages principaux. Donc,
c'est vrai.
Voilà. Et en plus, petit détail amusant, on se met dans chacune de nos BD dans les arrière-plans. Donc, on est présent dans toutes nos histoires.
Ah, dans une case de chacun de nos livres.
Donc, il faut chercher. Mais pour ça, il faut savoir à quoi. Faut connaître vos têtes.
Mais l'idée, c'est qu'on n'écrit pas des histoires à partir de rien. Toutes les histoires qu'on raconte, c'est des endroits où on a été, qui nous ont été inspirés par des endroits où on a été, avec des personnages qui sont inspirés par des gens qu'on connaît. Donc, on est incarné dans toutes nos histoires, en fait. Sinon, on ne ferait pas ces histoires-là. Du coup, on ne peut pas en choisir une plutôt que les autres, puisqu'on est à part égale dans un peu toutes les histoires. Alors, il y en a qui sont plus anxiogènes, comme The Doll Shop, on n'aimerait pas forcément y vivre au quotidien. Mais ça fait quand même écho à des souvenirs qu'on a, donc voilà. Il n'y a pas de séparation, comme si on écrivait des univers de science-fiction ou de fantasy, dans l'espoir d'un jour se retrouver sur une autre planète.
D'accord. Alors, dernière question avant qu'on se laisse, c'est comment est-ce qu'on peut suivre votre actualité ? Parce que votre jeu vidéo qui va bientôt sortir, là on peut déjà le mettre en liste de souhaits sur le site, enfin via la plateforme Steam. Donc, est-ce que vous avez une date de sortie pour le jeu ou pas encore ?
En 2026, le jeu est bien avancé concrètement. Après, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est promo. Donc, pour l'instant, on ne met pas de date de sortie dévoilée sur Steam. On garde un peu le mystère parce qu'on va voir aussi comment la promo évolue et comment... Comment on va gérer ça ? Pour l'instant, c'est surtout focalisé sur le développement. Mais dès que le développement sera bien engagé, il va falloir commencer à réfléchir vraiment à la promo. Donc voilà, courant 2026, c'est sûr. Mais après quand exactement, je ne sais pas.
On a une newsletter qui est donc disponible. On peut y accéder. On peut s'inscrire à partir de notre site ateliersento.com.
Voilà, on envoie un message par mois environ avec toutes nos news.
Voilà. Et on a un Instagram qui est très actif, où on met toutes les news importantes, les nouveautés, etc. Donc c'est pareil, il suffit de taper Atelier Sento sur Instagram.
Et pour les méga fans, on a aussi un Patreon, c'est-à-dire une plateforme de financement participatif où les gens qui veulent nous supporter, parce que bon, bah voilà, la BD, le jeu vidéo, surtout quand il n'est pas sorti, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Et du coup, nos super fans, ils peuvent nous donner un petit quelque chose, 1 euro, 5 euros par mois, 10 euros. Et en échange, ils ont accès à des contenus exclusifs, des carnets de croquis qu'on n'a jamais révélés, des news sur l'avancée de nos projets avant tout le monde, ce genre de choses.
Il faut savoir que pour The Doll Shop, pour notre jeu vidéo, on n'a vraiment aucun financement.
Ouais.
On peut pas, comme on n'est pas une société ni rien, on ne peut pas faire tellement d'appels à une aide ni rien. Donc,
pour l'instant, on est à zéro budget. Ouais. Et à partir du moment où on commencera à travailler sur les traductions, on va être obligé de payer des dons.
On
sera en négatif et en espérant que le jeu se vende suffisamment pour qu'on rentre dans nos frais.
Et du coup, c'est entièrement financé par Patreon. C'est la seule, c'est notre seul revenu en fait de, qui nous permet de travailler sur ce projet-là. Voilà.
D'accord. Bah, écoutez, c'est sur ce que va se clôturer cette émission. Merci beaucoup, Cécile et Olivier, d'être venus nous parler de votre travail. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau bord de scène. Vous pourrez écouter cette émission sur le site Esprit Occitanie ainsi que sur l'application. Je vous dis à très bientôt et je vous dis à bientôt aussi. Peut-être on se revoit pour la promo de votre jeu vidéo quand il sortira.
Merci beaucoup, oui, avec plaisir.
Merci beaucoup Cécile, merci Olivier. Au revoir à tous.
À bientôt. Don't stop me, 'cause I'm having a good time.